Très heureux d'être avec vous ce matin. Et exceptionnellement, nous sommes à témoin. Non, je plaisante. On se réjouit de ce que le Seigneur est en train de faire. Et vous savez, je crois vraiment que si nous sommes secoués de cette façon, c'est que derrière, il y a un projet extraordinaire de Dieu. Je ne dis pas amen, c'est comme vous voulez, mais moi, je me réjouis déjà tout seul, je me réjouis. J'ai le droit de me réjouir tout seul. Mais franchement, je sais que Dieu est aux commandes. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, dira Paul, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alors, je disais l'autre jour à Luc, souvent je me plais, lorsque je traverse des difficultés, à dire « je louerai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche ». Amen. Ce ne sont pas les circonstances qui vont nous écraser, qui vont nous faire peur, mais nous sommes dans la sécurité de la présence de Dieu. Et je veux dire avec vous, je louerai l'Éternel en tout temps, en toute occasion, allez-y, sa louange sera toujours dans ma bouche, à vous. Et maintenant, vous allez le dire d'un seul trait. Je louerai. Vous êtes formidable. Alléluia. Alors ce matin, je voudrais vous partager quelque chose de particulier. Vous savez, je crois que Dieu est en train de faire évoluer les choses et il accélère les choses. Cette église, l'église Josué, c'est une église que Dieu a plantée dans Guebwiller, mais mieux que cela, il l'a plantée dans cette région. Et ça va devenir une maison de Dieu, un lieu de rencontre, un lieu de formation, un lieu de guérison, un lieu d'envoi, une Antioche. Et je crois vraiment qu'en disant cela, ce n'est pas pour susciter l'orgueil, la fierté, mais je crois que la préparation, elle est peut-être longue, elle est peut-être difficile, mais ceux qui sèment avec larmes récolteront toujours avec des chants d'allégresse. Et si vous avez pleuré beaucoup, vous allez rire beaucoup. Mais rire de joie, alléluia, pas d'un rire moqueur, mais rire de joie, parce que Dieu veut vraiment réjouir tous ceux qui sèment avec persévérance, qui sèment avec larmes, et Dieu veut que nous puissions voir à l'avance tout ce qu'il a prévu. Et c'est vrai qu'il a préparé des œuvres à l'avance pour que nous les pratiquions, pour que nous entrions dans cela. Et je voudrais m'adresser non pas à une élite, je ne voudrais pas m'adresser ce matin à une partie de cet auditoire, je voudrais m'adresser à chacun de vous, je voudrais m'adresser de la part de Dieu à toi qui es assis dans ce lieu ce matin et qui écoute. Alors l'Église doit vivre une vocation totale, mes amis. C'est-à-dire que Dieu veut nous donner une identité bien marquée et pour lui la priorité c'est que notre vie spirituelle soit une vie forte. Alléluia. Et il veut nous entraîner jour après jour plus profondément dans son intimité. Il veut nous faire descendre dans son cœur parce qu'il désire nous parler. Il désire nous diriger. Et ce matin, je voudrais vous dire de sa part, Dieu sait exactement ce à quoi tu es appelé. Et donc, il veut que ta vie spirituelle soit renforcée et il désire que tu puisses t'approcher de lui chaque jour davantage. Et je voudrais te donner un petit secret que j'utilise. Ce matin, ça, on en a parlé un petit peu pendant ce temps de louange. Mais quand ton âme ne veut pas lire la parole de Dieu, quand ton âme ne veut pas louer, tu parles à ton âme et tu lui dis « Mon âme, loue l'Éternel. Mon âme, nourris-toi de la parole éternelle de Dieu. » Tu ordonnes à ton âme de le faire. Parce que parfois, on voudrait, mais on n'est pas disposé à le faire. Et notre âme, elle a toujours souvent des désirs contraires à ce que Dieu voudrait. Je parle à mon âme et je dis « Mon âme, loue l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, réjouis-toi en ton Dieu. » Amen. Donc Dieu veut que ta vie spirituelle soit forte. Il veut une église forte. Il veut une église bien bâtie. Mais il veut aussi que cette église influence la société. Alors ça, c'est un renouveau qu'il va faire par son esprit. Mais nous désirons nous réjouir avec tous ceux et celles qui vivent dans l'onction. Est-ce que vous aimez l'onction ? Est-ce que vous aimez la présence de Dieu ? Alors, je suis avec vous, j'aime l'onction, mais j'aime pas l'onction pour l'onction, mais l'équipement, je l'aime parce que grâce à cette onction, on peut toucher des vies, on peut toucher des situations. Et Dieu veut nous apprendre à nous réjouir avec ceux qui bâtissent l'Église. Alors, on va lire un premier texte ce matin. Donc, si vous avez votre Bible, ouvrez-la avec moi. Je pense que vous l'avez prise avec vous, cette Bible. Et on va l'ouvrir dans le livre d'Esdras, au chapitre 1er. Esdras chapitre 1er, verset 1er. Il est question d'un homme qui s'appelle Cyrus, un homme qui était roi de Perse, mais la parole de Dieu avait été prononcée bien avant que Cyrus n'existe, et cette parole a dû être prononcée par la bouche de Jérémie, et la parole de Dieu nous dit dans ce verset 1er, « L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple ? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets, du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs, les lévites, tous ceux, écoutez bien, dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et nous disons amen à ce premier passage. Vous vous rendez compte ? Dieu réveille l'esprit d'un homme, l'homme parle, témoigne, et tous ceux qui entendent cet homme voient leur esprit à leur tour réveillé. Est-ce que ça ne vous fait pas rêver pour l'Église ? Moi, ça me fait rêver, parce que je voudrais que ce ne soit pas simplement quelques-uns qui soient touchés par Dieu, mais que tout le peuple de Dieu soit réveillé, secoué par l'Esprit de Dieu, et que nous puissions dire tous ensemble, nous voulons faire la volonté de Dieu, et pour cela, nous n'entendons pas simplement un message, nous l'entendons, mais nous pratiquons dans la vie de tous les jours ce que nous avons entendu. Nous incarnons ce message que nous avons entendu, nous nous levons, et ensemble, nous bâtissons. Est-ce que c'est votre rêve, cela ? Est-ce que vous voudriez être puissamment utilisé par Dieu dans votre vie quotidienne ? Là où vous travaillez, là où vous habitez, là où vous avez des amis, des voisins, est-ce que vous voudriez que Dieu vous utilise d'une façon particulière dont vous n'avez jamais vu les effets ? Moi, je veux cela et je veux dire, Seigneur, saisis-moi par ton esprit, réveille-moi par ton esprit, fais de moi réellement un témoin pour que ton royaume avance. Alléluia. Ça va, c'est bien parti. Alors, on va aller maintenant au chapitre 3, verset 1er. Donc, toujours dans Esdras, chapitre 3, verset 1er. Le septième mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors, le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shéatiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour lui offrir des sacrifices, selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils aient à craindre les peuples et les pays, et ils offraient des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Et nous disons amen. Et puis, si on va un petit peu plus loin, eh ben, on verra qu'après, plus tard, ce sera la maison de Dieu qui sera bâtie. Et ce passage, ces passages m'ont interpellé. Parce que c'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui avec nos églises. Il rétablit en premier une communion parfaite avec lui. Il veut que le peuple qu'il s'est formé devienne un peuple d'adorateurs, qu'il l'adore en esprit et en vérité. Ce matin, nous avons loué le Seigneur. Nous sommes entrés dans sa présence. Mais nous voulons plus encore, mes amis. Pas simplement chanter quelques petits chants, hein, mais nous réjouir d'être dans la présence de Dieu et nous laisser saisir par l'Esprit de Dieu, parce que Dieu veut nous conduire, il veut nous diriger, il veut nous prendre de là où nous sommes pour impacter le monde qui nous entoure. Et je crois que pour cela, le premier pas, c'est il veut voir l'autel dans nos cœurs être rétabli. Il y a un homme que j'aime énormément dans la parole de Dieu, c'est Ézéchias, le fils d'Akab. Akab, un roi qui a fait n'importe quoi. Il a fait tout pour déplaire à l'Éternel, plus que tous les autres rois. Vous lisez dans ses livres, et ils firent ce qui déplaît aux yeux de l'Éternel. Eh bien, Akab a fait encore pire que tout le monde. Il a même provoqué Dieu. Il a pris les ustensiles de la maison de Dieu. Il a fermé le temple. Et la Bible nous dit qu'en fermant le temple, plus de parfum sur l'autel. plus de chants en l'honneur de l'Éternel, plus de sacrifices, le sang ne coulait plus sur l'autel. Donc, un aspect de dévastation. Et lorsqu'Ézéchias a vu que les portes du temple avaient été fermées depuis longtemps, les lampes avaient été éteintes, il n'y avait plus d'odeur, de parfum dans ce temple, il y avait fort longtemps que le sang des sacrifices des victimes n'avait pas été répandu sur l'autel, il y avait en plus des impuretés dans toute la maison de l'Éternel. Alors Ézéchias se tourne vers Dieu. Et vous savez ce qu'il dit à Dieu ? J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Alléluia. Et mes amis, ce matin, j'ai l'intention, avec vous, de faire alliance avec mon Dieu et de lui dire, Seigneur, je mets ma main dans la tienne. Je suis imparfaite, je suis imparfait, mais par ta grâce, je me lève pour toi, je saisis ta main et je fais alliance avec toi parce que je sais que tu as des projets de paix et non de malheur. Parce que je sais que tu peux m'utiliser dans des circonstances qui sont même défavorables. Alors il se tourne vers Dieu et il dit, j'ai l'intention de faire alliance avec l'Éternel. Puis il va se tourner vers les Lévites et il va leur donner ce message. Maintenant, mes fils, je voudrais qu'on écoute ce message parce que c'est un message qu'il nous adresse. Cessez d'être négligents, car vous avez été choisis, amen, par l'Éternel, pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses enfants et pour lui offrir des parfums. Et vous savez ce qu'ont fait les Lévites ? Ils se levèrent. Oh, qu'est-ce que j'aime ce passage ! J'ai l'intention de faire alliance, mais vous les Lévites, vous les sacrificateurs, qu'est-ce que nous sommes devant Dieu ? Ce matin, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons offert des sacrifices de louange à l'Éternel. Nous avons offert notre cœur à Dieu. Nous lui avons offert des parfums. Nous sommes à son service. Nous sommes comme ces sacrificateurs qui étaient là du temps d'Ézéchias. Cessez d'être négligents. Vous avez été appelés, choisis par l'Éternel. Et je sais que j'ai été choisi par Dieu. Est-ce que tu as été choisi par Dieu ? Si tu es dans ce lieu, c'est que Dieu a le regard sur toi. Peut-être c'est la première fois que tu viens dans ce lieu, mais peu importe, si tu es dans ce lieu, la main de l'Éternel est sur toi. Le regard de Dieu est sur toi. Dieu a des projets de vie pour toi. Dieu a des projets extraordinaires pour ta vie, pour ta famille, pour tes amis, parce qu'il veut faire de toi un témoin à sa gloire et il veut que son royaume s'étende au travers de toi. Donc, cessez d'être négligent. Vous avez été choisis pour vous tenir à son service, pour être ses enfants. Merci Seigneur pour cette famille. Nous sommes les enfants de Dieu et pour lui offrir des parfums. Oh, l'autel, c'est le signe de la relation avec Dieu. Du temps de Zorobabel, le peuple réveillé par l'Esprit de Dieu a commencé par bâtir, ce qui est bizarre, mais il a commencé à bâtir l'autel en premier. Et à l'autel, on apporte nos sacrifices de louange, on apporte notre parfum, notre adoration, notre amour, et on peut dire à Dieu, Seigneur, je viens pour te dire je t'aime. Waouh ! Moi, j'aime dire au Seigneur Jésus, Jésus, je t'aime. Moi, j'aimerais vous entendre dire, pas par obligation, mais parce que vous aimez Dieu, Seigneur, je t'aime. Voilà, vous êtes en train d'offrir un sacrifice. Peut-être ça vous coûte de dire, il y a des gens qui sont tellement pudiques qu'ils n'osent pas dire je t'aime à leurs compagnons, à leurs compagnes. Mais moi, je veux dire au Seigneur ce matin, Jésus, j'ai pas honte de le dire, Seigneur, je t'aime, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es ma respiration, tu es ma vie, tu es ma joie, et je t'apporte l'autel de mon cœur. Ô Seigneur, l'autel, fondement de la relation de Dieu, est-ce que l'autel, est-ce que c'est ta priorité ? Est-ce que le sang a séché sur ton autel ? Est-ce que tu désires une vie spirituelle plus forte, comme point de départ avant tout ? Avant que les fondements du temple soient posés, eh bien, il est dit dans la parole de Dieu que 50 ans après, Agé est venu et leur a dit de travailler et de bâtir la maison de l'Éternel et il les a aidés à aller au-delà de l'autel. Mais le Saint-Esprit nous dit ce matin, d'abord, rétablissez cette communion avec Dieu. Entrez dans ma présence. Venez, entrons dans la présence de Dieu. Ça, c'est le psaume 95. Qui commence par ces paroles. Venez, entrons. Le psalmiste se met avec les autres en disant, venez, mais ensemble, entrons dans la présence de Dieu. Et puis, répandons nos cœurs devant lui. Mais le Saint-Esprit ne nous parle pas simplement de l'autel, il nous pousse à aller plus loin. Il faut bâtir l'Église. Et l'Église, c'est le projet central de Dieu. Ce n'est pas un parc, l'Église, où on entasse des brebis, vous savez. Mais l'Église, c'est l'ensemble des croyants que nous sommes qui formons un corps vivant parce que nous sommes devenus des pierres vivantes. Alléluia. Et Christ est la tête de ce corps. Alléluia. Et comme Jésus guérissait, bénissait partout où il passait, il pouvait même parler à distance et ordonner et la chose arrivait. Mais lorsqu'il passait et qu'il imposait les mains, lorsqu'il ordonnait à une maladie de partir, à des démons de partir, la chose se faisait. Mais vous savez, nous sommes le second corps de Christ. Je ne sais pas si ce n'est pas une fausse doctrine. Il y a eu le premier corps de Christ qui a été crucifié, qui a été ressuscité et qui est parti à la droite de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit que nous sommes le corps de Christ. Chacun pour notre part, nous sommes une partie de ce corps et nous reflétons une partie des joyaux que le Seigneur possède. C'est-à-dire, nous représentons Jésus-Christ. Et le temple, le palais en hébreu, c'est la même chose. Il y a dans cela une idée de grandeur, une idée de beauté. Le temple de Salomon était deux fois plus grand que le tabernacle, plus glorieux, plus spacieux. Mais dans Agé 2.9, il est dit « La gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai ma paix. » Mais le temple d'Hérode était deux fois plus grand que celui de Zorobabel. C'était la gloire d'Israël du temps de Jésus. Jean chapitre 2, verset 19 à 21. Mais Jésus leur dira même « Détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. » Et les Juifs de dire « Mais il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en trois jours tu vas le relever. » Mais il parlait du temple de son corps. Image de la restauration de gloire en gloire. Et Dieu veut une église glorieuse. Il veut dans cette église l'excellence de sa connaissance. Une église toujours plus grande. Une église toujours plus belle. Toujours plus glorieuse. Est-ce que vous désirez voir l'église allant de progrès en progrès? Alléluia. Et moi, je pense que c'est un défi que Dieu veut nous lancer. Mais il nous faut avoir une passion pour cela. Il nous faut un autel fort. Une vie de prière forte. Alléluia. Une vie d'obéissance. Une vie de l'esprit. Des dons spirituels manifester, mais il veut aussi que cette vie soit couronnée de succès dans le sens que nous sommes porteurs de la vie de Dieu. Et quand Christ vit en nous, c'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit au travers de nous, c'est lui qui va toucher les malades, c'est lui qui va guérir les malades, c'est lui qui va libérer les captifs en chassant les démons au travers de nous. Jésus veut le faire, mes amis. C'est pas nous qui faisons le travail, c'est Christ en nous, Christ au travers de nous qui le fait. Et Dieu veut une église forte, Dieu veut une église unie, mes amis. Et le diable se plaît justement à appeler la désunion, mais Christ est celui qui unit. Acceptez les différences, acceptez les marges d'erreur au milieu de nous, tolérez ces marges d'erreur. Et l'unité va venir parce que il y a différents courants dans la cité de Dieu, il y a différents courants dans l'église de Jésus-Christ. Et puis, il y a aussi ce troisième axe, c'est que, vous vous rappelez, lorsque Anania est venu voir cet homme de Dieu, il est venu en lui disant, mais le peuple est dans la déportation. Et il est dit dans ce passage qu'il était en captivité. Et moi, je crois vraiment, mes amis, que si du temps de Néhémie, il y a eu des catastrophes comme cela, on vit dans un monde en ce moment qui est un monde très changeant, un monde qui fait peur. On est en pleine période électorale, on n'a jamais vu cela. Et vous le savez, c'est vraiment quelque chose d'épouvantable. Mais Jésus veut régner sur notre pays. Jésus veut régner dans ce monde et Jésus veut nous montrer qu'il a les commandes. Alors, Néhémie, entendant cela, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se met à l'écart, il jeûne, il pleure sur cette situation, et il crie à Dieu en élevant tout d'abord le nom de Dieu en disant « Seigneur, ô grand Dieu, toi qui as créé le ciel et la terre et tout ce qui le renferme, tu as dit dans ta parole que si on s'éloignait de toi, de là où on serait, tu nous disperserais. Mais si on revient à toi tout notre cœur, alors que nous sommes dispersés, de là où nous sommes, tu nous ramèneras tous ensemble dans le même endroit. » Et le Seigneur donc a béni cet homme qui est allé voir le roi. Le roi lui a donné des sauf-conduits pour ramener le bois, toutes les matières dont ils avaient besoin. Et la parole de Dieu nous dit que Il en parle à ses contemporains. Et quand les gens entendent Néhémie parler avec ce projet qu'il a sur le cœur de reconstruire la muraille de Jérusalem et de reconstruire, merci beaucoup, de reconstruire cette muraille, mais en même temps de réparer tout ce qui avait été brûlé par le feu, les portes, la parole de Dieu nous dit que ces gens ont été d'un seul coup motivés et ils ont dit « Levons-nous et bâtissons ». Moi, j'aime ce « Levons-nous et bâtissons ». Est-ce que vous aimez cela ? Levons-nous, c'est pas à quelques-uns, c'est nous, le peuple de Dieu. Levons-nous et bâtissons la maison de l'Éternel. Alors, la ville, la cité en grec, c'est polis qui a donné le nom de politesse, dignité de vie, et politique, qualité de vie. Alors la question, comment améliorer la qualité de vie, la politesse, la politique ? Ben, par l'entraide, tout simplement. Et l'organisation de la vie, si vous faites quelque chose, la vie de notre ville, la vie de notre région, la vie de notre pays va prospérer. Et pour Néhémie, il y avait donc cet autel, il y avait ce temple à réparer ou à remettre en place, mais c'était pas suffisant. Il fallait rebâtir la muraille autour de la ville et il fallait que cette ville soit protégée. C'était la vie dans laquelle la vie du royaume allait se manifester. Et moi, je trouve ça extraordinaire parce que Dieu nous parle au travers de cet exemple. Ça, c'est un secret pour servir notre génération. Je voudrais vous emmener dans un endroit que vous connaissez. C'est un endroit rempli d'ossements, la vallée d'Ézéchiel. À votre santé. C'est une vallée qui était remplie d'ossements et l'Esprit de Dieu entraîne Ézéchiel à aller dans cette vallée. Et la Bible nous dit que quand Ézéchiel a vu cela, les eaux étaient complètement secs. Mais complètement. Et l'Éternel lui pose la question, « Ézéchiel, ces eaux pourront-ils revivre ?» Vous savez ce qu'il répond ?« Seigneur, toi tu le sais. » Il n'a pas voulu se mouiller, hein, le gars. Parce que quand il a vu ça, il a dit, « Oh non, je ne crois pas vraiment, mais toi tu le sais, puisque tu poses la question. Hein. Réponds à ma place. » Les eaux étaient éparpillées. Il y avait des tibias ici, il y avait des crânes par là, il y avait, je sais pas moi, des métatarses, des métacarpes. Tout était mélangé, il y avait des eaux partout, mais les corps n'étaient même plus constitués. C'était une véritable pagaille. Ces eaux pourront-ils revivre ? Seigneur, l'Église pourra-t-elle enfanter des âmes nouvelles ? Seigneur, l'Église pourra-t-elle se multiplier ? L'Église pourra-t-elle atteindre notre nation ? Toucher notre nation. L'Église pourra-t-elle toucher les responsables de notre nation, les autorités de notre nation ? Et on a envie de dire, Seigneur, vu tout ce qu'on entend à la télé ou à la radio, toi seul tu le sais. Mais on va faire quelque chose, mes amis, pour que de ce lieu parte quelque chose de fort. On va parler, on va déclarer de nos bouches ce matin ce qu'on a envie de voir parce que l'Esprit de Dieu va nous pousser à prophétiser sur ce qui est lamentable, désastreux, sur ce qui n'a peut-être pas de forme encore maintenant, mais Dieu, lui, va mettre en forme. Vous savez, je pensais l'autre jour à cette tempête, lorsque Jésus était à la proue du bateau et qu'il dormait. Vous vous rappelez de ce passage ? Il dormait, tout à coup la tempête s'est levée, et puis les disciples ont commencé à crier, à secouer Jésus en disant « Maître, maître, pourquoi dors-tu ? Nous périssons !» Et Jésus de dire, Jean de peu de foi, il se lève, il dit au vent, tais-toi, il dit à la mer, calme-toi, et tout redevient calme. Vous savez, ce n'est pas la tempête qui a fait que Jésus s'est levé pour se mettre en action. C'est le cri du cœur de ces gens. Et souvent, nous sommes dans la tempête, dans le désespoir, mais nous ne pensons pas que Jésus puisse intervenir de façon miraculeuse. On croit qu'il est loin, on croit qu'il dort, on croit qu'il n'a pas la possibilité d'aller plus loin avec nous, et on se désespère. Mais simplement, Jésus dira, « Jean de peu de foi, pourquoi avez-vous douté ?» Et c'est le cri de ces gens, c'est alors qu'ils ont interpellé Jésus, c'est là qu'il s'est mis en action. Il ne s'est pas mis en action quand la tempête était là, puisqu'il dormait. Il s'est mis en action quand ils ont demandé quelque chose. Et ce matin, nous allons lui parler, nous allons lui demander quelque chose afin qu'il intervienne. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous croyez qu'il peut intervenir ? Il est le Tout-Puissant, mes amis. Et moi, je voudrais que la foi, même si elle est petite dans mon cœur, cette foi vous touche ce matin et que le Saint-Esprit souffle sur cette foi. Alléluia. Vous savez, Bartimée, cet aveugle qui était aux portes de Jéricho, lorsqu'il a entendu qu'il y avait des mouvements dans cette ville bien bizarres, parce que comme il était aveugle, il entendait, il percevait mieux que les autres les bruits de la ville, et il s'est dit, mais il se passe quelque chose de bizarre dans cette ville de Jéricho. Et alors il pose des questions, ah mais oui, mais il y a Jésus qui est entré dans la ville avec ses disciples. Mais quand il est ressorti de la ville, il est ressorti avec ses disciples et une foule qui le suivait. Et lorsqu'il a entendu que c'était Jésus qui passait, et il savait que Jésus pouvait guérir les malades, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a crié de là où il était, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et là, les religieux ont essayé de le faire taire. Vous savez, c'est souvent ça dans l'Église, quand on a un peu le feu dans le cœur, il y en a « Tais-toi, reste à ta place, ça va !» Mais lui, il a crié encore plus fort une seconde fois, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta sur le chemin. Est-ce que vous ne croyez pas que le cri de notre cœur ce matin peut arrêter Jésus sur Guebwiller? Est-ce que vous ne croyez pas que notre cri peut arrêter Jésus sur le chemin, sur notre pays de France, sur cette région de l'Alsace? Moi, je crois que si Dieu voit notre misère, s'il entend les cris de nos cœurs, s'il entend les cris qui vont jusqu'à lui, il va s'arrêter sur le chemin. Le cri qui arrête à Dieu. Alléluia. Alors quand Ézéchiel a vu ses ossements, Dieu lui a dit, écoute, tu vas faire une chose, tu vas parler à ces os, et tu vas dire, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel qui vous dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Alors Ézéchiel, lui, ce qu'il a fait, il a commencé à parler. Il a dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel qui vous dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Et aussitôt, il se fit un mouvement. Et je crois que Dieu va susciter des mouvements dans nos églises locales. Dieu va faire venir dans ces églises des gens qui ne le connaissent pas maintenant, mais qui vont le connaître. Parce que nous avons la foi que lorsque nous allons prophétiser sur tout ce qui est desséché, sur tout ce qui n'a pas de vie, Dieu va envoyer la vie. Il va se faire un mouvement, un rapprochement. Alléluia. Et les eaux ont commencé à se mettre en ordre. Quand le vent passe, mes amis, il se passe toujours des choses. Le vent peut abattre des arbres. Le vent peut abattre des bâtisses solides. Parce qu'un vent, ça peut être très puissant et même très, très violent. Il peut y avoir un nettoyage avec le vent. Mais gloire à Dieu pour le vent qui nettoie nos vies. Amen. Qui emporte tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Alors viens, Saint-Esprit, et souffle sur nos vies. Emporte ce qui n'est pas ta gloire. Mais le vent aussi, c'est le vent qui va nous rassembler et qui va faire que nous allons former, non pas nous allons être chacun dans notre petit coin, mais nous allons commencer à former le corps de Christ dont Christ a besoin pour passer au travers. Et nous allons prendre notre place dans ce corps de Christ. Selon notre appel, selon nos dons, nous allons être mis à la bonne place. Et j'ai envie que Dieu souffle sur nous ce matin, pour que nous puissions être à la place où il veut que nous soyons. Est-ce que vous ne voulez pas cela ce matin? Moi, je crie à Dieu pour que ce vent vienne et ce vent provoque au milieu de nous un mouvement, mais le bon mouvement de Dieu. Pas le mouvement de la division, pas le mouvement de la discorde, de la critique, mais le mouvement qui fait que nous allons devenir tous des passionnés à travailler ensemble dans l'unité, alléluia, dans le rassemblement, dans la complémentarité les uns avec les autres. Et c'est ce que Dieu veut faire au nom de Jésus. Alors tu prophétises sur les eaux desséchées, tu leur dis, écoutez la parole de l'Éternel. Ça veut dire simplement, soyez attentifs. Dieu parle et quand Dieu parle, sa main agit, sa main accomplit. Et puis quand les corps ont commencé à se constituer, parce que c'était une armée nombreuse, très nombreuse, et je dis que si Dieu veut rassembler son corps ici, son corps local, il y a d'autres corps dans d'autres villes que Dieu veut rassembler, mais en France, tous ces corps vont former le corps de Christ dans notre pays de France. Alléluia. Et je crois que Dieu veut le faire. C'est pas une illusion passagère qui passe dans mon esprit. Je crois que Dieu veut toucher son Église. Quand il a dit qu'il la rendrait belle, qu'il la rendrait glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, je le crois, mes amis. Mais ça, c'est pas ce que nos yeux voient. Mais nos yeux spirituels doivent commencer à voir et à percevoir ces choses-là. Et il va dire maintenant, esprit, tu vas souffler des quatre vents pour que ces morts revivent. Viens, esprit de Dieu, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'ouest, souffle de l'est. Ça veut dire, si ça souffle de tous les côtés, tu ne pourras plus te cacher. Le vent va te toucher, le vent va t'atteindre. Ce vent de l'esprit, ce vent qui va réveiller ta vie, il va te toucher. Et c'est alors que tout va se mettre en ordre. Nous voulons être une église qui soit composée selon ce que Dieu voudrait. Et je lis dans le livre des Actes, au chapitre 13 et au verset 36, l'histoire d'un homme qui a marqué aussi ma vie, c'est David, qui, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu et mort, a été réuni à ses pairs. Et il est dit que David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. Vous vous rendez compte si sur votre tombe, plus tard, on voit écrit « Telle personne, toi ton nom, a servi les desseins de Dieu dans sa génération. » Quelle belle épitaphe, n'est-ce pas? Et moi, je crois que le Seigneur veut se servir de chacun de nous pour que nous puissions toucher notre génération. Ça, c'est mon désir. Et pour cela, il n'a pas besoin d'une élite, il a besoin de chacun et chacune d'entre nous. Nous avons de l'importance aux yeux de Dieu. Quel que soit l'appel qui t'est lancé, quelle que soit la capacité que tu as reçue de servir Dieu, en tout cas, il y a, dans la parabole des talents, il y a des gens qui ont reçu 5 talents, d'autres qui en ont reçu 2, d'autres qui en ont reçu 1, mais le principal, c'est que le talent qu'on a reçu, on le fasse fructifier, qu'on ne l'enterre pas. Et il y a bien des gens qui enterrent leur talent et qui se disent « ça, c'est pas pour moi, c'est pour d'autres ». Peut-être qu'ils sont timides, mais peut-être qu'ils n'ont pas envie de se lever parce qu'ils se disent « si je commence à faire cela, je vais avoir les pires ennuis après, je vais entrer dans un état de catastrophe. » Mes amis, quand on est dans la main de Dieu, on n'a rien à craindre. Jésus a dit « je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». On n'a rien à craindre. On est dans sa main. Nul ne nous ravira de sa main. Et ça, c'est vraiment la promesse que Dieu nous fait. Et ce matin, je voudrais... par la grâce de Dieu, Saint-Esprit, fais-le. Je voudrais réveiller votre esprit ce matin et vous dire que ce qui nous attend maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est quelque chose de beau, quelque chose d'unique, quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Et je voudrais susciter votre foi et vous dire, c'est pas nous tout seuls qui allons le faire, c'est tous ensemble que nous allons le faire. Dans l'unité, en nous levant et en disant, alléluia, nous allons combattre, peut-être avec la truelle d'une main, avec l'épée de l'autre main, parce que l'ennemi va chercher à nous diviser, mais nous allons faire vraiment la volonté de Dieu, et en quelques jours, nous allons voir l'Église prospérer, l'Église s'agrandir. Et on ne veut pas que l'Église s'agrandisse pour faire du nombre, on veut que l'Église soit redoutable aux yeux de l'ennemi, parce que c'est le moyen que Dieu a choisi pour conquérir des territoires qui ne sont pas conquis pour l'instant, au nom de Jésus. Mes amis, nous voulons avoir la foi de Josué et de Caleb et dire, emparons-nous de ce pays, nous y serons vainqueurs, alléluia. Alléluia. Souvent on recherche Dieu pour nous-mêmes, pour qu'il nous bénisse nous-mêmes, égoïstement. Mais moi, je réfléchis à cette chose, c'est que parfois nos prières ne sont même pas exaucées parce qu'elles sont tellement tournées vers nous-mêmes, elles n'apportent absolument rien au royaume de Dieu. Et Dieu ne fait rien du tout. Pourquoi? Parce que nous prions la mauvaise prière. Mais quand nous commençons à regarder autour de nous, à détacher nos regards de nous-mêmes pour les tourner vers ceux qui souffrent, ceux qui ont besoin de Dieu, si on commence à voir l'effet du royaume de Dieu sur notre société, on se dit, mais Seigneur, si tu me maintiens en bonne santé, si tu me laisses en vie, c'est parce que ton projet, c'est de m'utiliser pour que je puisse toucher ceux qui m'entourent. C'est pour cela que Dieu va... Et là, Dieu va t'exaucer. Si tu demandes des choses pour toi-même, oh, tu peux, bien sûr, Dieu peut nous bénir matériellement, il peut nous bénir spirituellement, il peut nous encourager, mais la raison pour laquelle il répond à nos prières, c'est l'intérêt de son royaume que nous avons pour lui. Si nous avons de l'intérêt pour son royaume, alors là, il va nous dire, je vais te mettre à la bonne place. Je vais souffler sur toi un souffle de vie. Je vais t'utiliser comme jamais tu n'as été utilisé. Et quand tu vas entrer dans ton ministère, quand tu vas entrer dans ta vocation, tu n'auras pas des poids sur les épaules qui vont t'écraser, mais tu porteras le joug doux et léger que le Seigneur veut que tu portes. Et tu seras dans le repos de Dieu. Et tu verras des miracles s'accomplir, mais ce ne sera pas toi qui les feras, c'est le Christ qui est en toi qui les accomplira. Que Dieu se lève dans nos vies. Que Dieu se lève au travers de nos vies et touche des situations. Mais je voudrais que nous puissions voir cet homme qui a servi au dessein de Dieu dans sa génération. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu veux nous bénir dans ce sens pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus. Alors je voudrais qu'on puisse prier ensemble pour que nous puissions recevoir de sa vie ce matin. Je voudrais que tu puisses donner ta vie à Jésus ce matin, la remettre sur l'autel, te consacrer de nouveau et que tu puisses dire « Je suis venu dans la maison de Dieu, non pas pour qu'on voit que je suis présent ce matin, qu'on remarque ma présence. Je ne suis pas venu dans la maison de Dieu simplement pour entendre des chants qui me sont agréables. Je ne suis pas venu simplement dans la maison de Dieu pour entendre un beau message. Mais qu'est-ce que tu vas faire du message que tu as entendu ce matin ? Est-ce que tu vas l'appliquer à ta vie ? Est-ce que tu as le désir de l'incarner ? Sinon, ce que tu as entendu, ça sera du vent. Et quand tu vas sortir de ce lieu, tu vas même oublier tout ce que tu as entendu. Parce que l'homme est oublieux avant toute chose. Mais si tu dis, j'ai l'intention de faire alliance avec mon Dieu, là, toute chose va devenir possible. Si tu dis à l'Éternel, je me lève parce que tu m'as appelé à te servir. Tu m'as appelé à être un sacrificateur en ton nom. Tu m'as appelé à t'offrir des parfums. Tu m'as appelé à répondre la bonne nouvelle du royaume dans ce monde. Tu m'as appelé pour guérir les malades, pour soulager les opprimés, pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Tu m'as appelé pour que je sois un térébin de la justice pour servir à ta gloire. Tu m'as appelé pour bâtir sur des ruines. Alléluia. Tu m'as appelé pour que l'Église se construise sur les bonnes bases de ta parole. Tu m'as appelé pour que je sois un témoin fidèle à ta gloire. Et ce matin, je veux offrir ma vie à Dieu en lui disant, Seigneur, j'ai peut-être cheminé, mais j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai peut-être même été paresseux. Cessez d'être négligent, dira le Seigneur au travers d'Ézéchias. Vous avez été appelé à la gloire de Dieu. Et ce matin, je voudrais, au nom de Jésus, que vous fermiez vos yeux. Mais simplement pas pour devenir des religieux, simplement pour laisser la liberté à tous ceux qui voudraient le faire, de se lever à leur place et de dire « Seigneur, je suis venu dans ce lieu ce matin pour entendre ta parole, mais je ne veux pas la laisser tomber à terre, je veux obéir. Et je veux te demander de me faire grâce ce matin et de m'aider à être debout devant toi pour te servir. Seigneur, s'il te plaît, entends mon cri, le cri de mon cœur. Entends aussi mes incapacités à te servir, à te rencontrer quotidiennement. Entends aussi toutes les fois où je suis pris par des activités et où ces activités m'éloignent de toi. Mais je veux ce matin compter sur ta grâce. Il n'y a que la grâce de Dieu qui puisse nous faire avancer. Et je veux dire, Seigneur, ce matin, je colle à cette vision et je te demande la grâce de me lever devant toi pour que tu fasses de moi une flèche aiguë. Je suis dans ton carquois. Mais prends cette flèche, Seigneur, maintenant, et bande l'arc, et que je sois pour ce monde une flèche de délivrance. Et si tu ressens dans ton cœur ce désir d'aller plus loin avec Dieu, et de t'offrir, lève-toi à ta place, en disant, Seigneur, oui, je m'offre en sacrifice devant toi, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Seigneur, s'il te plaît, sers-toi de moi, sers-toi de nous, sers-toi de cette Église. Seigneur, que cette Église soit méconnaissable, parce que tu l'appelles à de grandes victoires, à de grands succès. Mais ce matin, moi qui vous parle, je suis debout et je dis, Seigneur, je fais alliance avec toi. Et je te demande de me bénir maintenant, non pas pour moi-même, mais pour que, étant rassasié de toi, étant rempli de toi, je puisse toucher toutes les personnes que tu mettras sur mon chemin et qu'elles puissent te rencontrer au nom de Jésus. Alléluia. Je vais prier et on va prier ensemble. Et on va dire, Seigneur, souffle. On va parler à cette église, on va parler à la population de Guebwiller, on va parler à la population de l'Alsace, on va parler à notre pays de France en disant « Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel qui vous dit « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez ». Seigneur, s'il te plaît, réveille l'esprit de mes bien-aimés ce matin, réveille notre esprit, Seigneur. Que nous ne ressortions plus les mêmes, mais que nous puissions, à la sortie de ce culte, embrasser ta vision, nous laisser conduire par toi. Seigneur, tu vas parler par ton esprit, mais tu vas faire qu'un mouvement, un mouvement va commencer au milieu de nous. Oh, alléluia! Merci pour le mouvement de ton esprit. Merci pour ton esprit qui rassemble nos cœurs, pour ton esprit qui nous unit en un seul corps, un corps qui va glorifier le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Me voici, Seigneur. pour faire non ma volonté, mais pour faire ta volonté. Alors ce matin, je m'offre à toi. Alors tu peux dire ou murmurer, mais dis-lui ce matin, Seigneur, je me lève pour toi, je me donne à toi. Seigneur, réveille mon esprit, souffle sur moi, souffle des quatre vents, afin que je reçoive cette portion de ton esprit, pour que je vive, mais pour que d'autres vivent à mon contact, au nom de Jésus-Christ. Viens, Saint-Esprit, saisis-toi de nous ce matin. Viens, Saint-Esprit, touche-nous ce matin dans ce lieu. Puissamment, souffle de Dieu, viens. Fais-le ce matin, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va dire, Gebwiller, viens à Jésus. Alléluia. On va prononcer des paroles de vie. Écoute, Gebwiller, écoute la parole de l'Éternel qui te dit, je mettrai mon esprit en toi, dans cette ville. Gebwiller, je mettrai mon esprit en toi et tu vivras. J'appelle la vie dans cette ville. J'appelle la vie de Dieu dans cette ville. J'appelle l'autorité de Dieu sur les autorités, mais sur la population de cette ville, du premier au dernier. Touche les quartiers. Passe dans les quartiers, que ton fleuve de vie confronte le fleuve de mort et que cette vague surpasse la vague de la mort et l'engloutisse au nom de Jésus. Viens et touche l'Alsace, Seigneur. Viens et touche notre pays de France. Viens et touche la francophonie au nom de Jésus. Viens et touche les îles lointaines au nom de Jésus-Christ. Mais Seigneur, ton vent va amener la vie partout où il passe. Merci, Seigneur, parce qu'il y aura un rapprochement. Les églises vont travailler ensemble. Les églises vont se rapprocher les unes des autres pour accomplir tes desseins. Et je crois vraiment dans cette unité, non pas créée par l'homme, mais créée par ton esprit, créée par ton fleuve merveilleux, le fleuve de Dieu qui va couler, fleuve de repentance, fleuve de grâce, fleuve d'amour, fleuve de paix, fleuve de guérison. Alléluia. Ce matin, viens à Jésus tel que tu es. Si tu as envie de redonner ton cœur à Jésus ce matin, fais-le de nouveau. Si tu veux te repentir, fais-le ce matin. Et dis-lui, je viens à toi, Seigneur. Mais je veux repartir de ce lieu, transformé, vivifié. Je veux être une autre personne, parce que c'est toi qui m'auras touché. Oh, je t'aime, Jésus. Merci pour tous les soupirs qui sortent des cœurs maintenant, pour toutes les prières qui montent vers toi. Tu entends, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le délivre de toutes ses détresses. Jésus, merci pour ta bonté. C'est ta gloire, la bonté de l'Éternel, c'est ta gloire. Merci aussi parce que tu veux aussi proclamer ton nom au milieu de nous. Tu es l'Éternel, lent à la colère, compatissant, riche en miséricorde, riche en bonté. Voilà quel est ton nom. Et Seigneur, ce nom, je veux le faire connaître à tous ceux qui ne le connaissent pas. L'Éternel, miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Alléluia, tu es tout pour nous, Seigneur, ce matin. Adorons le Seigneur pendant quelques instants. Livrons-lui notre cœur. Disons-lui que nous l'aimons par-dessus tout. Il nous a aimés le premier en retour. Nous voulons l'aimer. Jésus, reçois l'offrande de nos cœurs. Reçois notre parfum ce matin. Reçois aussi notre joie de t'appartenir et d'être sauvé. Seigneur, ce matin, tu étends ta main. Alléluia, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. S'il y avait une personne peut-être qui veut ce matin faire un pas avec le Seigneur parce que se sentant loin de lui, que cette personne lève la main. Même si vous êtes debout, vous levez simplement votre main. Et si vous voulez, c'est le signe simplement que vous voulez que le Seigneur pardonne vos péchés, vous touche et vous fasse du bien en vous visitant. S'il y a une personne qui veuille accepter Christ comme son sauveur, comme le Seigneur de sa vie, qu'elle lève la main, cette personne. Sinon, eh bien, on continue, mais simplement, je vous donne l'occasion de le faire, parce que Jésus veut régner dans votre vie, il veut régner dans votre cœur, il veut être le roi de toutes choses, et il veut vous dire, je suis venu pour vous donner la vie et vous la donner en abondance. Ça, c'est notre Dieu. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Alléluia, méditons ces paroles, et cette semaine, arrosons par nos prières, arrosons nos voisins, nos collègues, arrosons nos amis, arrosons nos familles. Et nous allons voir des choses bouger au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Alléluia. Amen. J'en profite, peut-être, moi que tu veuilles, j'en profite pour aller sur la francophonie. Voilà, je te laisse.
Pendant qu'on priait, je sentais dans mon cœur qu'au moins une personne, si ce n'est pas plus, se disaient, mais moi je suis trop petit, je connais rien, c'est pas pour moi. Et sais-tu que le Seigneur se plaît à choisir les choses faibles du monde pour confondre les fortes, les choses qu'on méprise pour confondre les fortes. Et vraiment, reçois l'appel de Dieu. Ne te sens pas inutile, trop petit, trop ceci, trop cela. Mais tu es précieux. Et l'Éternel te dit, je suis celui qui prend les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Et je viens à toi tel que tu es, dans ta petitesse, dans ta pauvreté, dans ton besoin. Et je te tire et je fais de toi un roi, un prince, mon fils, ma fille. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu parlais aussi, je sentais le Seigneur veut raviver. Vous savez, dans la prière du Notre Père, il y a ça commence comme Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté, que ton règne vienne. Et ça, c'est un désir. Et le Seigneur ravive le désir dans nos cœurs, que son règne vienne. Vous savez, est-ce que vraiment ce désir est activé? Il veut le réactiver. Souvent dans la vie, il y a des choses qui viennent heurter, il y a des barrages, il y a des déceptions sur nous-mêmes, des déceptions des autres, tout ça. Et tout ça, ça arrête le rêve et le désir. Mais le Seigneur veut réactiver ce matin le désir. Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie, sur cette terre. C'est un profond désir. Et c'est de ce désir que se lèvent les bâtisseurs. Amen. Et je crois que maintenant, on veut quelques mots juste sur la francophonie. Et je crois que chacun d'ici, je te rappelle, si tu parles français, et nous parlons tous français ici, hein, si tu parles français, c'est que Dieu, il a un projet pour la francophonie. Et probablement que tu es appelé là-dedans.
Merci Luc. Amen. J'aime bien travailler en équipe comme ça. Ça, c'est super Luc. Hein. Je suis vraiment fier de Jésus là. Waouh. Ça me réjouit tellement. Oui, alors donc ces trois derniers jours, j'étais à Toulouse pour simplement parler pour faire partie de cette commission qui traite de la francophonie. Donc il y avait des personnes qui appartenaient à RNC, puis des personnes qui appartenaient à d'autres réseaux que RNC. Mais peu importe, mais nous avons passé trois jours vraiment excellents. Pas trois jours simplement à chauffer une chaise et attendre que ça passe, mais trois jours où nous avons été amenés à prier pour le pays, mais à prier pour la francophonie, et plus que cela, nous aligner sur la pensée de Dieu. Et on a eu des moments très très forts, même des moments prophétiques très 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 forts. Et le Seigneur s'est vraiment réjoui de tout ce que nous avons pu vivre dans sa présence. Alors simplement, vous pouvez dire qu'on parle français dans cette nation. Vous savez, le latin ne suffisait pas et Dieu nous a donné le français pour qu'on puisse s'exprimer encore mieux. C'est pas de moi. Hein. Alors, 52 nations francophones dans le monde, c'est la cinquième langue la plus parlée au monde. C'est-à-dire c'est 3% de la population mondiale. 102 pays et territoires, langue officielle dans 57 États répartis dans 29 pays. Et c'est vrai que ça fait quelque chose de savoir que c'est une langue qui est parlée quand même dans pas mal de pays. Et des pays comme la Chine voudraient bien voir des choses se profiler. Ils aiment beaucoup la France. C'est la deuxième langue étrangère apprise après l'anglais. Ça, je ne le savais pas, je l'ai appris là-bas. C'est la troisième langue des affaires dans le monde, le français. Et c'est la deuxième langue de connexion Internet. Voilà, donc ça fait plaisir d'entendre ça, hein. Donc voilà, donc prions pour la francophonie, c'est vraiment une richesse dans ce monde. C'est vrai qu'on est toujours frappé par tout ce qui est anglais, américain, etc. Et c'est vrai que la langue qui nous sert le plus quand on est en pays étranger, c'est l'anglais, bien sûr. Hein. Mais puisse un jour le français puisse être connu dans d'autres pays, qu'on puisse parler cette langue dans d'autres pays, des pays que nous visiterons et qui seront bénis aussi par notre présence. Je me rappelle qu'une fois, je suis allé en Roumanie et là, on avait un gars qui nous traduisait. C'était un Roumain, mais il parlait le français, mais de façon excellente. Et c'était notre traducteur. Et ça m'a fait chaud au cœur de voir que dans des pays étrangers, on parle le français, mais on le parle de façon courante. On pourrait peut-être projeter les slides. On n'a pas le temps de mettre le clip vidéo. Simplement, donc voilà, le réseau Nouvelle Connexion présente la journée de la francophonie. Normalement, la journée de la francophonie, c'est le 20 mars. Mais comme le 20 mars tombe en semaine, on fête la francophonie dans les églises locales le dimanche. Donc tu peux continuer. Voilà. Alors, RNC dans la francophonie, c'est la communion des églises dans l'espace francophone, c'est EEF. 275 millions de francophones dans le monde, c'est une langue, une histoire, des cultures qui s'entremêlent, plusieurs voyages missionnaires chaque année. Voilà ce que nous pouvons faire aussi au sein de la francophonie. Alors, ce qu'on a voulu aussi, c'est essayer de régler tous ces voyages missionnaires et faire en sorte que des gens n'aillent pas dans un pays déjà arrosé, mais puissent aller avec des gens qui ont l'habitude d'aller dans ces pays pour continuer à apporter, mais à construire dans le bon sens. Voilà. Est-ce qu'il y en a une autre encore? Je crois qu'il y en a une troisième, non? Ouais, c'est ça. Voilà, RNC tisse des liens et mène des actions diverses dans le monde francophone, des accompagnements apostoliques, des visites pastorales, des formations, des séminaires, des partenariats, des aides humanitaires, des secours d'urgence, des aides au développement. Et dans plusieurs pays, l'Algérie par exemple, les Antilles, le Bénin, Burkina Faso, Burundi, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, Madagascar, le Mali, le Maroc, le Niger, Québec, République centrafricaine, République du Congo, Sénégal, Suisse et Togo. Voilà, ça ce sont les pays dans lesquels le Seigneur désire que nous entrions. Et il a parlé de la Jérusalem, il a parlé de la Judée, mais il a parlé aussi des extrémités de la terre. Et nous on veut dire les extrémités francophones de la terre. Est-ce qu'il y en a encore une autre? Mais vas-y. D'accord. Ben merci beaucoup, Suzanne. Non, mais c'est vrai. Hein. Alors ça, c'est une grâce. Hein. Alors, RNC dans la francophonie, une commission. Donc, elle est composée de Robert Baxter. C'est lui qui nous réunit. Donc, il est dans la famille Horizon. Il y a aussi Philippe Chaudon, qui est dans le réseau Impact. Nicolas Guillet, qui est du réseau Ariel. Robert Radix, qui est du niveau initiative. Et moi-même, qui suis issu du réseau Héritage. Le bulletin annuel, donc un bulletin a été fait. Donc j'aurai l'occasion de vous donner un exemplaire pour que vous puissiez le feuilleter. Et si ça vous intéresse de l'avoir, je peux aussi vous le faire avoir. Donc RNC dans la francophonie peut être consulté sur le site de Réseau Nouvelle Connexion. Voilà pour ce qui est de la francophonie. En tout cas, les trois jours étaient clôturés, chaque jour était clôturé par une réunion publique. Enfin, c'était pas une réunion publique, c'était une réunion qui réunissait les collaborateurs des églises de la région. Donc ils sont venus et on a pu avoir donc un message de Jean Turpin le premier soir et le second soir de Marcel Kouaménan qui est apôtre sur un ensemble de pays dans ce monde et il est basé particulièrement aux Antilles et donc c'est un gars que je vais voir normalement régulièrement tous les ans mais cette année j'ai décidé de ne pas y aller parce que je voulais aider l'église de Fontenay à démarrer. Et puis aussi, il y avait quelque chose à faire aussi de fort sur Chambéry. Et donc cette année, je me suis passé de mon séjour aux Antilles, mais c'est reculé pour mieux sauter. Hein. J'ai vu notre frère, donc il sera partant pour qu'on puisse y retourner. Et peut-être à l'occasion, y aller non pas seul, mais y aller avec une personne ou deux. Voilà, bénissons Dieu pour la francophonie. Je te laisse conclure par rapport aux offrandes, tu l'as dit tout à l'heure, mais je te laisse conclure maintenant. Hein. Merci.
Merci Alain. La liste des pays que vous avez vus, ce sont des pays où les actions existent déjà au niveau du réseau. Donc il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait des missions au niveau des églises locales qui partent sur les pays de la francophonie. Ça se multiplie, c'est vraiment beau. Donc voilà, on veut terminer ce culte par les offrandes et les dîmes. Donc l'offrande de ce jour, elle va pour Madagascar et en particulier les œuvres de RNC, églises et orphelinats qui étaient touchés par le vent. Donc il y a, j'aurais voulu faire un mail, j'ai pas pris le temps, qui explique un peu. Mais voilà, donc intégralement l'offrande de ce jour va pour Madagascar. Et mais on veut simplement prier. Et Huguette, t'avais quelque chose? Non, d'accord. Ah, t'avais envoyé un mail, d'accord, super. On veut simplement prier et bénir ces offrandes et ces dîmes. Seigneur, merci pour la francophonie, merci pour l'esprit missionnaire que tu as mis en chacun de nous. Et Seigneur, je te prie de bénir ces offrandes et ces dîmes afin que ces semences soient en bénédiction pour l'œuvre locale, mais au niveau des offrandes pour Madagascar. Merci pour ce pays que tu nous as donné de connaître, de servir aussi, avec ce que tu nous as donné. Et Seigneur, en tant qu'Église Josué, nous voulons semer sur ce pays de Madagascar la bénédiction. Et merci parce que tu multiplies cette semence. Alors Seigneur, que ta grâce repose sur chacun de nous. Que la communion avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit soit vraiment notre lot à chacun. Merci Seigneur pour ta présence, pour cette semaine, qu'on soit sel et lumière là où nous sommes. Amen.